sur des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Oui, tu peux dire bonsoir tout ça.
Bonsoir à tous et à toutes. Ah, mais c'est parce que la petite lampe qui m'indique que je parle est cassée, tout simplement. Voilà pourquoi je n'étais pas encore éveillée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le jeudi 19 février. Et ce soir, nous avons envie de vous parler de beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si nous pourrons aller au bout, mais dans l'idée, c'est d'aller faire un tour en Israël-Palestine, de parler de la Pologne condamnée, de parler un peu de capitalisme avec Lenovo. On ira faire un tour du côté de l'armée des États-Unis d'Amérique. On parlera de livraison de nuit à Lyon. On parlera du Maroc, de censure. On parlera un petit peu d'agriculture aussi. On parlera de la LICRA. On parlera des conséquences de l'affaire SwissLeaks. On parlera de Dieu. On parlera des Chibanis qui sont fait expulser. C'était aujourd'hui. On parlera du Sénat qui aime pas. Peut-être de nucléaire aussi. Enfin voilà, on verra jusqu'où on peut aller ce soir. Mais en tout cas, ce soir, Laurent, c'est toi qui commences.
Oui, un tout petit mot sur Israël-Palestine avec la bonne nouvelle qui concerne Hanine Zoabi. Donc c'est une députée arabe hein, qui est membre du parti Balad et qui n'avait pas le droit de se présenter aux prochaines élections. Vous savez qu'il y a une campagne électorale qui a déjà commencé en Israël et qui a des élections le 17 mars, élections législatives. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles en ce moment Netanyahou est très présent dans le monde et dans les médias israéliens, ce qui paraît normal, mais c'est pour ça qu'il est venu à la manif à Paris. Enfin, il y a tout un jeu électoraliste derrière ce qui se passe avec Israël aujourd'hui. Donc cette députée qui est plutôt classée à gauche, qui est arabe, donc elle voulait se présenter. C'était le Likoud, hein, le parti de droite, et Israël Beiteinu, donc là ce qui est de l'extrême droite, qui avait demandé qu'elle ne puisse pas se présenter parce que d'après eux, c'est un ennemi interne à l'État d'Israël, cette future élue ou cette députée, parce qu'elle est députée. Et alors pourquoi elle est considérée comme un ennemi interne? Elle a des positions qui sont plutôt pas mal hein, quand on imagine. Elle est contre la création d'un État palestinien. Elle est pour qu'il y ait un seul État avec les deux entités multiculturelles, multireligieux, tout ça, et que juifs et arabes, hein, parce qu'on en est là dans les distinctions là-bas, puissent vivre ensemble. Un discours qui était très porteur et très porté il y a une vingtaine d'années et qui a un peu disparu du discours aujourd'hui. On se bat plutôt pour la création d'un État palestinien. Donc voilà, elle est dans un autre discours. Elle est très attaquée pour ses différentes prises de position. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est pas surprenant, mais bon, c'est la Haute Cour de justice qui a donc invalidé la première interdiction prononcée contre elle par la commission électorale. Donc elle aura le droit de se présenter aux législatives qui arrivent donc le 17 mars.
Alors on va parler de la Pologne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné définitivement la Pologne pour avoir accueilli une prison secrète de la CIA sur son territoire. Alors à l'origine de cette plainte, il y a deux hommes, un Palestinien proche d'Oussama Ben Laden et un Saoudien qui est suspecté d'être l'un des principaux membres d'Al-Qaïda. Tous les deux racontent avoir été torturés dans cette prison en Pologne en 2002 et en 2003. Alors la Pologne est donc accusée de complicité, de n'avoir rien fait pour empêcher ces actes de torture. Le pays pourrait verser des indemnités qui sont réclamées par les avocats des deux hommes et par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ça, on est sur des sommes d'environ 100 000 euros chacun. Il faut savoir que pour l'instant, les deux plaignants sont toujours détenus par l'armée des États-Unis d'Amérique dans la prison de Guantanamo. Alors la Pologne a fait savoir qu'elle respecterait et appliquerait cette condamnation, parce que beaucoup de pays sont condamnés et puis derrière, ça vient pas toujours, le paiement des amendes. Donc bon, c'est déjà une première déclaration. Il faut savoir que la Pologne n'est pas seule, puisque c'est plus de 50 pays qui auraient aidé les États-Unis à mettre en place ces prisons secrètes de la CIA après les attentats du 11 septembre 2001. Donc voilà, là il y a deux personnes qui se sont portées plaignant, mais voilà, les autres sont toujours à Guantanamo pour un certain nombre, d'autres sont rentrés chez eux, mais ont essayé de reprendre une vie malgré justement toutes ces atrocités commises par l'armée américaine.
Alors on va parler un peu capitalisme, et on va, la semaine dernière je vous avais parlé de Samsung qui avait glissé des petits trucs pour faire afficher des pubs sur certaines télés, et ben là c'est Lenovo. Alors Lenovo c'est le leader mondial aujourd'hui de la fabrication d'ordinateurs, de PC comme on dit, leader mondial, une entreprise chinoise au départ, enfin actuelle. Et eux, ils se sont fait pécho, parce qu'ils avaient installé eux aussi un petit truc louche sur leurs ordinateurs. Alors, ça fait suite à l'affaire d'il y a quelques jours, là, il y a 2-3 jours, où on a découvert que sur les programme de disque de gestion des disques durs, à l'intérieur des disques durs, il y avait un mouchard vraisemblablement à l'origine créé par la NSA ou les services secrets américains. Et ben là, c'est un mouchard aussi qui est installé dans certains ordinateurs Lenovo. Alors soit il est installé, soit quand vous le démarrez, on vous demande de dire oui sur quelque chose qui est un peu flou et les gens disent oui et après ils ont ce mouchard. Alors que fait ce mouchard? Il fait deux choses. La première, qui est pas trop grave mais qui est quand même super agréable, c'est qu'elle ouvre de temps en temps des fenêtres quand vous utilisez Internet Explorer et Google Chrome. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Internet Explorer et Google Chrome, puisque ça ne marche pas avec Mozilla, puisque Mozilla est protégé contre ce genre de choses. Donc, ça vous ouvre des fenêtres de pub. Et vous avez de la pub supplémentaire. Des fois qu'on ne soit pas déjà envahi par la pub sur Internet, Lenovo a décidé de rajouter une autre couche. Alors, l'administrateur des communautés de Lenovo, qui s'appelle Mark Hopkins, explique, parce qu'il a été obligé de se justifier, il dit, alors, ça s'appelle un publiciel, très exactement, ce petit verre, là, ce petit logiciel pourri qui s'appelle Superfish. C'est le super poisson. Donc lui, il explique, il a justifié donc la présence du publiciel en disant ça va aider les consommateurs à trouver, à découvrir de nouveaux produits. Ah, mais c'est beau la publicité. Voilà, donc c'est honteux bien évidemment. Il y aura pas de poursuite parce qu'il se dédouane en disant attendez, en fait, on peut l'enlever. Voilà. Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que c'est un truc beaucoup plus vicieux que ça, c'est que ça récupère les certificats de sécurité. C'est-à-dire quand vous allez vous loguer sur un site où on vous demande un code, un site d'achat ou de votre banque ou des choses comme ça, ça récupère toutes les données. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils en font, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quand même pas très très sympa d'avoir ce genre de choses d'installer sur un ordinateur. Alors, bien évidemment, Tout le monde a réagi, notamment les constructeurs. Alors, pour ceux qui ont encore l'inintelligence d'utiliser Internet Explorer, Microsoft a fait une vidéo pour expliquer comment on virait tout ça et comment on pouvait gérer ses certificats de sécurité. Google Chrome l'a pas fait, mais il y a, ou l'a peut-être fait, on n'a pas fait gaffe. Toi, je vous rappelle qu'il y a des systèmes alternatifs et à Windows et surtout à Internet Explorer et à Google Chrome, qui est le pire aujourd'hui hein, pour transmettre des infos que vous auriez pas obligatoirement envie de transmettre. Et là, vous auriez été protégé pour une fois. Alors c'est peut-être parce qu'ils savent pas comment s'incruster dans Mozilla. D'habitude sur les dernières failles Mozilla était aussi concerné hein, notamment dans les virus là, ou dans les petits vers qui ont été mis dans les disques durs. Ça concernait tout le monde, d'ailleurs même ceux qui étaient sous Linux du coup, puisque c'était un programme qui était dans le disque dur. Donc voilà, c'est une intrusion de la publicité une fois de plus dans nos vies. Donc voilà, Lenovo, leader mondial de la pub incrustée sur les ordinateurs sans que vous en ayez envie.
Alors on reparle de l'armée des États-Unis d'Amérique sur un autre mode. Cette fois, c'est le département de la défense qui nous donne quelques nouvelles. Nous avons appris que le département de la défense dépense des sommes assez impressionnantes en médicaments contre les troubles de l'érection. Alors c'est une information qu'on avait déjà eue, oui. Ça coûte très très cher. Alors c'est un rapport du Military Times qui nous indique que le département de la défense a dépensé plus de 92 millions de dollars dans ces fameuses pilules. Ça fait environ 72 millions d'euros. Alors il y a une marque en particulier qui a raflé pas mal de marchés. C'est la marque Viagra pour 36 millions d'euros hein, quand même. Non mais c'est joli ça. Hein. Alors depuis 2011, on a un montant encore un peu plus impressionnant. Le coût total de prescriptions pour ces pilules dépasse les 294 millions de dollars. C'est assez impressionnant.
Hein. Ils ont des soucis là-bas.
Alors, c'est il y a un rapport hein, qui a été publié en septembre 2014, en septembre dernier, donc qui estime que le nombre d'hommes touchés par des problèmes érectiles au sein des forces militaires actives a plus que doublé entre 2004 et 2014.
Il y a une explication. Produits chimiques, tout
ouais,
ça.
Ouais, surtout que non. Alors, c'est en fait, le rapport estime que la moitié des cas, c'est des cas qui sont liés à des troubles psychologiques.
Ah oui.
Alors, on parle évidemment des troubles après qui vont être liés aussi à des blessures physiques. Mais c'est vrai que les troubles post-traumatiques, la dépression, l'anxiété, tous les traitements aussi, médicaments,
pour les tenir éveillés notamment.
Interviennent.
Il y a plein de produits chimiques. Il y a, voilà, ils sont un peu. Entouré de substances pas très sympathiques.
Alors, ce qui est rigolo dans l'affaire, c'est que dans plusieurs articles que j'ai pu lire sur le sujet, il est indiqué que le département de la défense a engagé de mesures pour faire baisser la facture. Alors, apparemment, ils sont plus en train de demander aux soldats retraités ou aux soldats qui utilisent ces pilules, ces médicaments, de passer par des filières moins chères. Enfin, c'est plutôt par ce truc-là. On parle pas d'arrêter la guerre.
Hein, oui, attends,
tout de suite, c'est pas ça qui est envisagé pour faire en sorte d'améliorer la situation, de réduire aussi les budgets. Non, hein, c'est plutôt encore aux soldats de faire quelques efforts, s'il vous plaît, hein, parce que là, ça crève le plafond au niveau budgétaire quand même.
Alors on va parler de libéralisme et de Lyon Métropole, enfin de la métropole de Lyon, c'est pas vraiment lié à Lyon Métropole d'ailleurs. J'ai appris aujourd'hui en lisant un journal économique donc de droite, libéral, que la métropole de Lyon achevait d'ici un petit mois une expérimentation unique en France. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils font d'unique en France? En fait, ils font une série de tests impliquant des enseignes, des transporteurs, des magasins, pour développer la livraison de nuit dans l'agglomération. Alors, on nous explique, hein, ça met en charge. Alors, c'est sous l'égide d'un truc qui s'appelle le Club Déméter, qui est une plateforme de libéraux qui essaye de mettre en place des choses pour faciliter la vie économique. Donc, ils ont développé des livraisons entre 22h et 2h du matin et entre 4h et 7h du matin. Alors, ils nous expliquent que c'est génial. Ils n'ont pas encore fait le bilan officiel, mais le premier pré-bilan est très très bon. Tout le monde est content. Bien évidemment, il y a beaucoup moins de problèmes de circulation. C'est la première des raisons de faire ces livraisons. La deuxième, c'est alors ça c'est la non c'est la vraie raison en fait. Ensuite, ils ont essayé de voir l'impact que ça pouvait avoir. Alors ils ont appliqué une norme qui nous vient des pays du nord de l'Europe sur le bruit parce qu'ils avaient peur que effectivement quand on livre dans une supérette ou un McDonald's puisque McDonald's participait dans des zones urbaines, les livraisons ça fait quand même grave du bruit, hein, on peut le dire. Du coup, ils ont une norme très très sévère sur les engins qui livrent, les camions qui sont pas du tout des camions standards, qui sont des camions qui répondent à cette norme. Donc ils sont contents, ils n'ont pas eu de plainte des riverains. Alors l'expérience est, d'après eux, valorisante et très valorisée. Ils sont tous contents, les entreprises, les salariés. Bon, la question qui se pose, c'est les salariés, c'est qui sont contents? Parce que obliger les gens à travailler de nuit, c'est quand même bizarre. Obliger les magasins à avoir des gens qui vont travailler de nuit, c'est quand même pas très très sympa. Alors on sait que le travail de nuit, malheureusement, a été généralisé hein, par une loi il y a quelques années sous prétexte d'égalité homme-femme. D'ailleurs, c'est un des rares exemples où on s'est servi, enfin non, c'est peut-être pas un rare, mais c'est un exemple, on s'est servi. Oui, les libéraux se sont servis de l'égalité homme-femme pour faire reculer le droit à ne pas travailler la nuit, hein, puisque comme les femmes n'avaient pas le droit de travailler la nuit, ils sont arrivés à faire que finalement, du coup, tout le monde s'est fait avoir. Et au nom de l'égalité, on peut travailler de nuit avec quelques petits suppléments. Mais ce qu'on peut noter, c'est que c'est une mise en place habituelle hein, du libéralisme qui voudrait nous faire travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors on sait que le dimanche est attaqué et il y a des réactions syndicales de résistance, même religieuses hein, de résistance. On sait que les cathos s'opposent au travail du dimanche pour que les gens puissent aller à la messe. Hein. Mais là, quand ils font des expérimentations comme ça, ils le font discrètement en fait. Ils essayent de louvoyer pour faire accepter. Alors ils sont même allés jusqu'à utiliser l'argumentaire écolo en disant mais comme il y a moins de circulation, ça pollue moins, etc. Tout ça pour faire qu'à la fin, le salarié soit corvéable à merci. Et effectivement, quelqu'un qui va travailler la nuit, eh ben le matin, il pourra pas s'occuper de sa famille, de ses gamins, il pourra pas avoir une vie sociale parce que travailler jusqu'à 2h du matin pour attendre les livraisons, c'est pas terrible pour avoir une vie sociale le soir, pour sortir, aller au restaurant, se cultiver, etc. Donc il y a tout ça que veulent casser les libéraux, hein, tout ce qui est lié finalement à autre chose que le travail dans la vie des êtres humains. Et c'est par ce genre d'expérience qu'ils arrivent à casser tout le système. Voilà, il faut faire attention à ça. Ils en tirent un bilan positif. Moi, j'en tirerais qu'un bilan totalement négatif.
Vous êtes au courant, toi aussi, Laurent, nous, la France, j'entends, sommes à nouveau amis avec le Maroc.
Ah, mais il faut toujours être ami avec les dictatures parce qu'il y a toujours du potentiel commercial.
Alors, un tout petit incident de rien du tout, hein, s'est produit au lendemain de la visite au Maroc de notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve. Alors, cette visite a mis fin à cette terrible année de bouderie diplomatique entre le Maroc et la France. Mais un tout petit incident quand même dont on va parler, hein, c'est Jean-Louis Pérez et Pierre Chautard, journalistes de première ligne qui réalisaient un documentaire économique pour France 3, qui ont été arrêtés dimanche à Rabat dans les locaux de l'association marocaine des droits humains. Ils étaient là-bas en train d'effectuer une interview. Hein, voilà, donc ils sont fait arrêter lundi. Ils ont été expulsés vers la France. Le matériel a été saisi. Ils ne l'ont pas récupéré. Hein. Alors, bon, on est amis. Hein, donc, c'est pas très grave. Alors, pour justifier l'intervention, les autorités marocaines ont fait valoir que les deux journalistes n'avaient pas effectué de demande d'autorisation de tournage. Pas d'autorisation. Pas de tournage, hein, c'est simple.
Dans le régime totalitaire, quand on fait une demande d'autorisation de tournage, eh ben on peut plus tourner ce qu'on veut. Donc du coup, les journalistes, ils sont bien obligés de s'en passer. Mais quand ils se font choper, effectivement, il y a le risque.
Ouais, sauf que la société de production Première Ligne, elle affirme hein, qu'elle a bien déposé une demande, mais qu'elle attend toujours la réponse, effectivement. Donc,
voilà. C'est une autre méthode.
Voilà, donc bon, elle attend, hein, elle attend. Alors, en réponse quand même aux protestations et au soutien apporté aux deux journalistes, le Maroc, par la voix de son ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Khalfi, a formulé hier mercredi une belle réponse. La censure pour des raisons politiques n'existe plus au Maroc. On est bien clair, nous sommes amis. Hein, on va arrêter de poser des questions qui fâchent. Et puis, hein, en même temps, les deux journalistes n'avaient qu'à respecter la souveraineté du pays en respectant les lois du royaume. Ça aussi, il me semble que c'est clair, il faut que ça soit dit. Bon, globalement, on circulait, il n'y a rien à voir, hein, comme d'habitude avec le Maroc. Alors, vous l'aimez, notre nouvel ancien ami, hein? Ça vous plaît, hein?
Ouais, alors, il y a eu un accord conclu, grosso modo, entre la monarchie marocaine et l'État français. Le contenu de l'accord n'est pas connu encore. Il va être connu. Parce que il va être ratifié par le Parlement. Le Canard Enchaîné de cette semaine a donné quelques petites pistes, hein, sur cet accord, qui est une horreur, bien évidemment, puisque il y aura moins de... Il va y avoir un échange, notamment au niveau des justices. C'est-à-dire que dès qu'un Marocain sera suspecté de quelque chose, tout de suite, le Maroc sera au courant. Du coup, ils pourront peut-être faire des choses pour pas que le mec il se fasse arrêter, pour négocier, voilà, etc. Parce que c'était au départ ça, la brouille, hein, c'est sur une affaire judiciaire légitime, du coup. Mais non, il faut pas toucher. Alors, les ressortissants marocains, ils en ont rien à foutre. Mais par contre, si vous êtes proche des dirigeants marocains, là, par contre, il ne faut pas y toucher. Donc voilà, c'est quand même triste, ces magouilles diplomatiques. Enfin, la diplomatie, c'est fait que de magouilles. Du coup, on est dans l'hypocrisie et le recul total des droits des journalistes. Mais ça, bon, c'est le Maroc, hein, après tout. On s'y attendait. C'est à moi ?
Eh oui, on parle un petit peu de chant.
Ah, les champs avec des herbes qui poussent. Oui, c'est une compromission de plus du Parti Socialiste, une compromission bizarre. Un truc que personne ne comprend. Pourquoi le Parti Socialiste au gouvernement, et notamment le Premier ministre, donc Valls, le président, se mettent à genoux, font des courbettes devant la FNSEA, le syndicat des patrons agricoles pollueurs. Pourquoi ? Alors que ils n'ont rien à y gagner électoralement, puisqu'on rappelle que la FNSEA, il y a eu déjà plusieurs études, ils votent à droite. Donc il n'y a aucun intérêt à faire du lèche-botte sur la FNSEA. Donc il y a sûrement des magouilles derrière qui expliquent pourquoi ils se plient devant la FNSEA, ils s'allongent devant la FNSEA, et je pourrais être beaucoup plus vulgaire, parce que c'est bien pire que ça ce qui se passe devant ces... Le principal pollueur en France, hein, des rivières françaises, hein, c'est la FNSEA, c'est pas vous et moi, c'est bien la FNSEA. Alors, tout ça dans un contexte particulier, puisque samedi, c'est l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et c'est toujours l'occasion pour les politiques de se coucher devant la FNSEA et balancer 2-3 décrets comme ça pour faire plaisir à ce syndicat très à droite. Donc là, qu'est-ce qu'a fait Manuel Valls ? Donc il a cédé sur deux domaines en particulier. Donc la première, je ne retrouve plus dans mes notes où c'est que j'avais noté exactement les choses avant de parler de l'eau, parce que c'est sur l'eau. Alors c'est oui, sur la simplification des règles environnementales, puisque forcément la FNSEA, ils sont contre la protection de l'environnement. Donc c'est sur les simplifications. Alors la gauche avait déjà fait des choses horribles, hein. On rappelle les autorisations, l'assouplissement des règles sur les élevages porcins, puisque avant, au-dessus de 450 porcs dans un élevage, il fallait demander, faire une déclaration et avoir une autorisation. Les socialistes l'ont fait passer à 2000 porcs. Ben là, ils vont faire pareil pour les élevages de volailles, puisque jusqu'à 40 000, on n'aura pas besoin de faire une demande. Il y aura juste besoin de faire une déclaration. On envoie un papier comme ça. On va ouvrir un truc de 40 000 volailles, avec les conséquences écologiques qu'on connaît. Donc voilà, ça c'est le premier gros cadeau qui a été fait à la FNSEA. Le deuxième, c'est sur l'eau. On sait qu'il y a eu, si on se rappelle bien, des mobilisations autour du barrage de Sivens, de la mort, hein, du militant écolo. Et ben le gouvernement est toujours du côté de la FNSEA, là aussi, puisqu'ils ont décidé de mettre en œuvre des politiques mettant en place des réservoirs d'eau. Ils ont annoncé qu'il y aurait la participation financière des agences de l'eau. Donc voilà, on rappelle que ces politiques de réservoirs d'eau sont liées à l'agriculture productiviste et pas du tout à l'agriculture traditionnelle, qui a beaucoup moins besoin de ces gros réservoirs d'eau, parce que ils n'ont pas forcément besoin de faire pousser du maïs dans des zones où il y a pas de maïs. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, et en plus, Manuel Valls, il a Qu'est-ce qu'il a fait? On est perturbé par une entrée intempestive dans les studios, c'est pour ça. Mais ça a l'air sympa, c'est pas des méchants qui nous attaquent. Oui, avec je sais plus où j'en suis. Enfin, bon, allez, vas-y, continue.
Alors, moi, je vais prendre la suite. Je vais vous parler des conséquences de SwissLeaks. Vous savez, donc, la révélation d'un système d'aide à la fraude fiscale dans la filiale suisse d'HSBC. Alors, il y a eu plein d'affaires, hein, c'est plein de commentaires dans la presse et les médias sur tout ça, mais pas un petit peu. Dans tous, et tout le monde ne le traite pas de la même manière. Alors c'est un quotidien britannique qui est visé, c'est le Daily Telegraph, un quotidien conservateur qui subit depuis mardi l'attaque de Peter Auburn, qui était encore il y a peu un de ses éditorialistes politiques en chef. Alors Monsieur Auburn est un ancien du journalisme britannique, c'est un éditorialiste de droite, anti-européen, libéral, pas vraiment des nôtres, hein, faut bien être clair, ouais. Hein, c'est pas notre ami. Alors, il est donc parti, il a démissionné, et cette démission s'est accompagnée d'un article de 18 000 signes, j'ai pas été vérifié, hein, c'est ce que j'ai pu lire, qu'il a publié mardi sur le site Open Democracy. Ça par contre, vous pouvez vous rendre sur ce site. Alors Monsieur Auburn, dans cet article... plusieurs pavés, retrace la façon dont le quotidien a censuré des articles sur HSBC. Alors pourquoi? Bah parce que c'est un gros financeur de publicité, tout bah simplement. Oui. Alors, il faut dire que Monsieur Auburn nous raconte aussi le traitement de l'affaire SwissLeaks par le Daily Telegraph. Alors, il nous explique. Rien le lundi. Six maigres paragraphes en bas de la page 2 le mardi. Sept paragraphes au fond des pages business le mercredi. Voilà, donc il faudra finalement, hein, nous explique-t-il, attendre que des personnes liées au parti là du labo, c'est-à-dire l'autre côté, hein, les opposants, sortent pour que finalement le quotidien conservateur commence un petit peu à s'agiter. Alors là, c'est un traitement de cette affaire qui est assez caractéristique. Ça fait déjà plusieurs années, hein, que le Daily Telegraph est accusé d'avoir opté pour le minimum éditorial quand il s'agit de HSBC. Il y a un certain nombre d'articles gênants qui sont passés à la trappe, des articles gênants pour la banque. Alors, ça a des répercussions tout ça, puisque le Guardian a relayé donc ces révélations de Monsieur Auburn. Le Guardian, c'est un quotidien qui est impliqué, hein, dans les révélations SwissLeaks aux côtés du Monde. Et le Guardian fait savoir qu'HSBC a mis en pause les achats publicitaires dans le groupe de presse de la Guardian. Ah bah ouais, il y a des répercussions. Le Guardian, de son côté, a appelé son cher confrère, le Daily Telegraph, pour avoir quelques explications. Daily Telegraph s'offusque, bien évidemment. Le quotidien dénonce une attaque étonnante et infondée, assure que le traitement entre l'information et la publicité, c'est des choses vraiment bien, bien distinctes et bien séparées.
Pourtant, alors, il y a des affaires qui tombent régulièrement, hein, sur les pressions qu'il peut y avoir, ou l'autocensure, hein, parce que finalement, ce qui marche le plus, c'est l'autocensure.
Ouais, et puis en même temps, un certain nombre de personnes pourront faire remarquer que la ligne éditoriale a bien évolué, qu'aujourd'hui on est plus sur une information de type fait divers, parfois on tombe carrément dans le magazine à scandale, donc rien de tout ça est bien bon de toute manière. Mais voilà, c'est des choses intéressantes, les liens entre entreprise et presse, elles ont toujours existé et elles sont sensibles, d'autant plus quand il y a la publicité.
Alors je vais vous parler de l'histoire d'un livre, qui a une aventure un peu rocambolesque. C'est un livre de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui s'appelle « 100 mots pour se comprendre contre le racisme et l'antisémitisme ». Alors ce livre a été très très critiqué quand il est paru, parce que, alors c'est pas la première fois que la LICRA fait ça, mais dans le livre, il y a un parti pris pro-israélien très très fort. Hein, alors, ça se voit dans différents chapitres, notamment celui qui concerne le sionisme et l'antisionisme. Le sionisme est bien présenté comme une option politique, hein, c'est bien ça, le sionisme est bien une idée politique. Par contre, l'antisionisme est toujours présenté, que ça soit dans les différents articles sur l'antisémitisme ou dans l'opposition entre sionisme et antisionisme, sionisme comme une expression de l'antisémitisme. Donc déjà, c'est un énorme parti pris. Quand on sait qu'il y a des juifs israéliens qui sont antisionistes, du coup, ça a l'air con, hein, un article comme ça. Hein, parce que, effectivement, le sionisme, c'est une idée politique, et elle peut être portée par des juifs, et alors par des non-juifs, c'est plus compliqué, parce que là, il y a un travers possible dans le racisme, pas systématique d'ailleurs, hein, mais c'est aussi porté par certains juifs. Du coup, ça marche pas du tout. C'est un énorme raccourci politique, voire de la manipulation, voire plus de la part de la LICRA, qui n'en est pas la première fois. Ensuite, il y a un truc très bizarre aussi dans ce livre autour d'Israël. D'abord, c'est le seul État qui est nommé et qui a une entrée, c'est-à-dire un paragraphe sur lui, alors que les autres l'ont pas. Pourquoi aller comprendre? Et quand ils parlent d'Israël, ils parlent de plein de choses. Alors ils disent que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, ce qui est toujours un petit peu compliqué de dire ça, parce que la définition de la démocratie, on sait pas bien ce que c'est. Mais si c'est un pays qui a des élections avec de l'opposition politique et des forces qui tournent, eh ben le Liban, même si la démocratie libanaise, elle est une démocratie très compliquée, puisque chaque groupe a un bout de pouvoir accordé, mais au sein de ces groupes, il y a des élections. Dans les villes, notamment, les couleurs politiques changent. Donc le Liban pourrait être considéré comme une démocratie. Et puis sur d'autres critères, Israël n'est pas une démocratie. Par exemple, il leur manque certains critères pour être vraiment une démocratie, comme une constitution, par exemple. Ils n'ont pas de constitution. Donc c'est toujours un peu compliqué de dire que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Et d'oublier le Liban. Bon, c'est un pays qui est beaucoup plus démocratique que ses voisins, en tout cas, ça c'est sûr. On va pas revenir là-dessus, mais c'est quand même très biaisé comme truc. Et alors ça, c'est, il y a eu plein d'articles sur tout ça. Et la dernière aventure du livre aujourd'hui, parce que faut quand même savoir que le livre, c'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la LICRA, et qui devait donc servir de support dans les collèges notamment pour parler du racisme et de l'antisémitisme. Et pan, le livre est retiré. Par l'éducation nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu de bol. Enfin, ou ils n'ont pas fait gaffe, ou ils sont un peu bêtes, ou c'est quelque part peut-être logique. En fait, c'est que un des auteurs, qui est un prêtre, qui s'appelle François Lefort, ben, ils n'avaient pas fait gaffe, mais il a été condamné en 2005 à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Du coup, c'est pas très sympa d'avoir en co-auteur un pédophile. Hein, faut quand même le dire, puisqu'il a été condamné pour pédophilie. Alors, du coup, le président de la LICRA, Alain Jabukovitch, a botté en touche en disant « Oui, le livre est retiré, il va être retravaillé. » Alors, retiré à cause du prêtre pédophile, mais du coup, il va être retravaillé et ils vont pouvoir essayer de réécrire un petit peu ces articles super litigieux, pro-israéliens, alors que la lutte contre le racisme, le racisme sous toutes ses formes, dont l'antisémitisme, hein, qui reste très prégnant dans les sociétés occidentales, mérite certainement beaucoup mieux qu'un livre comme ça, orienté politiquement, qui le décrédibilise et qui, du coup, dessert la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà la petite histoire de ce livre écrit par la LICRA et qui disparaît, qui réapparaîtra peut-être, en espérant, sous une forme un peu plus présentable. On va continuer et on va parler un petit peu de Dieu, hein, dans notre rubrique Au diable Dieu, avec quelques petites infos autour de la religion. Alors la première, qu'on pourrait prendre avec humour, hein, parce que je pense qu'il faut le prendre avec humour, les bêtises des croyants et des religieux, de certains. Donc là, c'est le cheikh Al-Bandar Kebari, alors qui le ridicule sur Internet depuis deux jours, c'est lui, hein, il faut quand même le dire. C'est arrivé hier, donc c'est un religieux saoudien. Il a tenté de démontrer à un étudiant que la Terre ne tournait pas sur elle-même, qu'elle était statique, et qu'elle tournait surtout pas autour, si elle tournait autour de lui-même, il l'a pas dit, mais qu'elle tournait pas autour du Soleil. L'ethnocentrisme qu'on a connu, hein, très, très longtemps en Occident et avant, du coup, dans d'autres pays. Et le problème, c'est qu'il a tourné, ça a été filmé et que ça a été diffusé sur Internet et que tout le monde se fout de sa gueule, puisque ça fait quand même très très longtemps qu'on sait, un, que la Terre est ronde, deux, qu'elle tourne sur elle-même, trois, qu'elle tourne autour du Soleil. Alors, l'idée qu'elle tourne pas sur lui-même, parce que là, il explique en prenant l'exemple d'un avion, il disait, mais si la Terre elle tourne sur lui-même, quand on part et qu'on veut aller en Chine, bah, si on est dans le sens où la Terre elle tourne en même temps que nous, bah, on n'y arrive jamais, on la rattrape jamais, la Chine. Il faut lui expliquer quand même que l'avion va beaucoup plus vite que la Terre, mais je crois qu'il n'avait pas compris. Et dans l'autre sens, il dit, en fait, l'avion il reste stationnaire et la Chine arrive sous lui au bout d'un moment. Et il dit, bah lui, c'est pas vrai. Ben non, la Terre, elle est bien ronde, elle tourne bien sur elle-même. elle-même et elle tourne autour du soleil. Bon, voilà, il a été ridicule. C'est ses croyances religieuses, c'est pour ça que c'est dans cette rubrique, qui le pousse à ces contradictions scientifiques. On sait que les trois religions monothéistes étant basées sur des textes écrits par des êtres humains à une époque où les connaissances scientifiques n'étaient pas très développées. Du coup, il y a plein d'erreurs scientifiques. Donc, voilà, on rappelle que c'est en 1992 que l'Église catholique a reconnu que la Terre était ronde et s'est excusée pour Galilée. Donc, bon, ils sont en retard aussi. Alors, on passe. Ah ben, on est chez les cathos, on va retourner chez les cathos, là. Avec les prêtres catholiques en Espagne, il y avait un gros procès. Donc, c'est le tribunal, ça se passait au tribunal de Grenade, dans le sud de l'Espagne, puisque c'est une affaire qui concernait 12 prêtres pédophiles, donc poursuivis pour ces actes de pédophilie. Le pape s'était d'ailleurs ému et engagé à ce qu'il soit poursuivi, condamné. Une affaire qui a fait beaucoup parler d'elle en Espagne et ailleurs dans le monde. En fait, c'est 12 personnes, donc 10 prêtres et 2 laïcs, qui étaient poursuivis donc pour des faits de pédophilie entre 2004 et 2007, qui ont lieu entre 2004 et 2007, et ça a été révélé l'année dernière. Et ben la mauvaise nouvelle, c'est que la justice espagnole, qui est souvent très proche encore de cette tradition franquiste, très proche de l'Église espagnole, qui est à l'extrême droite tout court, l'Opus Dei, tout ça. Et donc, 11 de ces 12 inculpés ne seront pas poursuivis parce qu'il y a prescription. Voilà. D'après ce juge. C'est beau, la prescription. Donc, il y a quand même une victime qui raconte que pendant 3 ans, il a été violé de multiples fois par un prêtre et par plusieurs prêtres de sa paroisse. Eh ben non, c'est pas grave. On continue, on le laisse. Voilà, c'est la belle justice qui protège les religieux espagnols. Voilà. Alors, on va passer à la France. Et il y a un truc drôle dans la loi Macron. Vous savez, cette loi, ce fourre-tout libéral qui fait passer plein de choses. Il y a un truc que je n'avais pas vu et qui a énervé certains religieux catholiques français, notamment Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, que je ne connaissais pas. Pourquoi ? Parce que dans la loi Macron, ça a été voté, cette partie-là, samedi dernier, ça a été déposé, c'est un amendement qui a été déposé par la députée socialiste de La Réunion, qui s'appelle Erika Barreit, et qui a déposé un amendement qui était donc voté pour transformer les fêtes religieuses chrétiennes du calendrier pour les régions d'outre-mer à d'autres moments pour d'autres fêtes, parce que il n'y a pas cette même tradition catholique qui pourrait y avoir. Donc ça portait sur trois fêtes au départ, ça portait sur trois fêtes qui étaient le lundi de Pâques, l'Ascension et le lundi de, lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Toussaint et l'Assomption. Ces cinq fêtes devaient dans les dom-tom, avaient la possibilité de pas les faire férier et de mettre d'autres jours en échange pour des fêtes peut-être locales, pas forcément d'ailleurs religieuses. C'est une des aberrations de l'État laïque français, c'est d'avoir gardé les fêtes religieuses, parce qu'il y avait un terreau, etc. Il y avait plein de gens qui, pendant un moment, pratiquaient encore ces fêtes. Et donc, elle s'est fait rentrer dedans, cette députée socialiste, par ce Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, qui y voit une attaque contre la religion catholique, alors que, bon, ça serait une attaque contre la religion catholique et contre la religion tout court, ça me ferait plaisir, sauf que c'est pas ça du tout. Elle dit que ces fêtes, elles ne correspondent à rien pour certaines populations, et donc autant que ces populations aient le droit d'avoir des jours fériés sur des fêtes qui leur correspondent, qui correspondent à une tradition, à un truc important pour elles, alors que celles-là, ça représente rien. Du coup, c'est plutôt un respect des populations locales. Et ben, ce monseigneur, il en a rien à foutre des populations locales. Lui, il dit que toute la France doit être chrétienne, donc les dom-tom aussi doivent être chrétiens. Voilà, c'est quand même assez triste de voir ça. Et puis, pour terminer cette rubrique au diable Dieu, un petit mot sur l'Égypte. Donc, on rappelle quand même que dans le monde, les personnes qui ont le plus de mal à vivre leur choix religieux, ce sont les athées ou les rationalistes, enfin, vous les appelez les libres penseurs. Voilà, il y a plusieurs termes. parce qu'il y a des petites différences aussi. Et une fois de plus, il y en a un qui en a pris plein la gueule. C'est dans un tribunal égyptien. Donc c'est un étudiant qui a été condamné à 1 an de prison. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a dénigré l'islam, mais c'est pas ça qui lui a reproché du coup. Mais il a prôné l'athéisme sur Facebook, sur son Facebook. Donc voilà, il a été poursuivi, il a été balancé déjà par ses collègues, et donc il est poursuivi pour ça. Et c'est intéressant de voir, c'est que c'est pas l'État égyptien parce que ça serait quelqu'un qui a critiqué l'islam. C'est pas de ça dont il est question, puisque l'État égyptien officiellement, alors dans la réalité c'est des fois un peu différent, mais officiellement protège les 3 religions monothéistes. Donc il y a officiellement, c'est ça, au moins en tout cas les chrétiens et les musulmans. Et d'ailleurs, les autorités musulmanes comme chrétiennes ont critiqué ce garçon et sont contents de la condamnation. Donc là, il y a main dans la main et tout ça. L'athéisme reste le combat permanent en Égypte pour les communautés religieuses, qu'elles soient musulmanes comme chrétiennes. Donc voilà, il en a pris plein la gueule. Bon courage aux athées dans le monde. Ils sont ultra minoritaires et ils galèrent de partout. D'ailleurs, dans plein de pays, on n'a même pas le droit d'être athée. On est obligé de faire semblant, on vous rappelle. La France étant un pays quand même très protégé là-dessus.
Alors je vous propose de vous lire une partie du communiqué du DAL, du droit au logement, suite à l'expulsion des habitants du 73 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Alors, depuis 7h30, les CRS procèdent à l'expulsion des locataires du 73 rue du Faubourg Saint-Antoine, pour la plus grande part retraités maghrébins, locataires de cet hôtel depuis de nombreuses années. Cette expulsion, sans jugement, pour de prétendues raisons de sécurité, prend par surprise les locataires, organisés en association de locataires affiliés au DAL depuis l'été, depuis qu'une menace d'expulsion arbitraire pesait sur leurs épaules. Cette expulsion fait apparemment suite à un arrêté d'interdiction d'habiter pris peu avant Noël par la préfecture de police de Paris, motivée par un dispositif de sécurité incendie insuffisant. Les locataires et DAL avaient alors envoyé un courrier au préfet de police fin décembre, lui proposant de différer l'expulsion jusqu'à leur relogement promis par la ville de Paris avant fin juin. Les locataires étaient prêts à répondre aux exigences posées par l'arrêté en attendant leur relogement. Il s'agissait de recruter un gardien qualifié sur la sécurité incendie. Les locataires attendaient la réponse de la préfecture de police et, en cas de refus, avaient décidé de quitter les lieux de leur propre chef afin de se rendre dans la structure d'hébergement. Depuis, il n'en a pas été ainsi. La préfecture de police n'a pas répondu à ce courrier, n'a pas fait connaître son intention de maintenir l'expulsion et a envoyé les CRS ce matin, scénario que les Chibanis redoutaient par-dessus tout. Voilà, donc le DAL dénonce une action répressive, très violente, dénonce le finalement, enfin son prix, hein, tout le monde a été pris par surprise par cette affaire, tout le monde pensait qu'il y avait négociation. Le DAL a indiqué aussi qu'il y avait des propositions de relogement qui étaient en cours, qui étaient en train d'arriver. Voilà, mais il reste quand même très dur, hein, sur cette expulsion. On rappellera que pour la plupart, c'est des habitants qui sont là depuis très longtemps, qui sont dans cet hôtel qui est pas vraiment un bel endroit, hein, non plus, hein, qui a besoin d'une certaine rénovation. Voilà, donc c'est vraiment des manières de faire et des méthodes vraiment de merde, fasciste, excusez-moi.
Ouais. Alors on va parler un peu environnement maintenant. Alors je vais revenir sur la faute tout à l'heure où j'ai bafouillé suite à une perturbation extérieure. Je vais terminer donc avec le PS là qui se couche devant la FNSEA, puisqu'ils ont annoncé officiellement à la FNSEA qu'ils allaient qu'ils devaient être contents, puisque ils allaient pouvoir il y a eu un arrêté d'un tribunal, ils allaient pouvoir du tribunal d'instance d'Albi pour être exact et précis, pouvoir expulser les zadistes de la zone du Testet. Donc voilà, une nouvelle info qui a été donnée à la FNSEA. Alors, justement, en lien avec cette info, il y a une grosse étude mondiale, hein, qui regarde l'impact de l'agriculture et de l'élevage sur le réchauffement climatique. Et c'est pas négligeable du tout, puisque c'est 24% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'élevage et à l'agriculture. Alors, l'élevage, on le savait, hein, c'est le pet des vaches, le fameux pet des vaches, avec du méthane. Bon, il n'y a pas que les vaches, hein, il y a tout l'élevage globalement. métal qui est le méthane, qui est un gaz qui a un pouvoir réchauffant très très fort, à 28 fois le CO2. Il y a le protoxyde d'azote aussi, qu'on retrouve notamment dans les épandages d'engrais azotés, minéraux ou organiques. Donc voilà, c'est juste pour rappeler que quand on fait, on veut développer l'agriculture productiviste, on soutient l'agriculture productiviste comme le fait M. Hollande et M. Valls, on peut pas après faire semblant d'organiser une conférence à Paris en disant qu'on est contre le réchauffement climatique, puisque la FNSEA est un des principaux acteurs du réchauffement climatique à l'échelle locale de la France, bien évidemment. Cette étude, elle n'est pas très claire, elle est juste approximative quand même, puisque sur le bio, par exemple, on n'a pas d'impact. Est-ce que le bio est mieux au niveau du réchauffement climatique? Sur le reste, on sait que le bio est forcément mieux, il n'y a pas de pollution d'intrants chimiques ou de choses comme ça. Sur le réchauffement climatique, les études sont pas très claires, et grosso modo, ça serait à peu près pareil, hein, pour rappeler. Et du coup, la principale action à faire, c'est d'essayer de consommer le moins de viande possible, puisque c'est bien ça qui est le plus problématique dans le réchauffement, dans l'émission de gaz à effet de serre liée à l'agriculture et à l'élevage. Alors, pour revenir sur les lois de transition énergétique qui ne sont pas de la transition énergétique, on va revenir encore sur le Sénat. J'en parle chaque semaine, parce que chaque semaine, ils votent des trucs horribles. Donc, là, il y a eu une belle tentative. Hein. On peut leur dire bravo, même si ça a échoué. Deux amendements sont glissés au Sénat dans cette fameuse loi de transition énergétique qui voulait réautoriser ou autoriser l'exploitation des gaz de schiste en France. Donc, déposés par deux députés UMP et qui ont été... qui étaient dans l'article 49 de la loi très exactement, et qui ont été repoussés mercredi. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a des gens qui, quand même, qui étaient un petit peu vigilants, notamment le Chantal Joanneau de l'UDI, qui avait vu l'entourloupe. Donc l'objectif, hein, c'était de développer le gaz de schiste, et il s'appuie toujours sur cette étude américaine, états-unienne même très exactement, comme quoi la France serait le premier pays européen derrière la Pologne, donc en deuxième du coup, voilà, en termes de réserve de gaz et de pétrole dit non conventionnel. Sauf que cette étude, elle est éminemment fausse, ultra biaisée. On a le cas de la Pologne, hein, où tout le monde, les grosses multinationales, Total, Exxon, tout ça, ils sont allés chercher du gaz de schiste et ils s'en sont tous partis. Parce que il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas beaucoup, ou alors c'est pas rentable du tout. Hein. Donc cette propagande de cette agence états-unienne qui sert de référence aux députés de droite pour essayer de relancer le gaz de schiste, elle n'est pas fiable du tout. Mais en même temps, ils essayent et ils sont aidés par les industriels qui viennent de monter un groupe de pression, en anglais on appelle ça un lobby, qui va s'appeler un centre de documentation sur les hydrocarbures non conventionnels, présidé par Jean-Louis Chilansky, ex-président de l'Union française des industries pétrolières et membre du MEDEF, donc on a bien compris que c'était vraiment un lobby. Donc il y aura dedans Total, Suez Environnement, Veritas, Vallourec, GDF, Suez, etc., Air Liquide, voilà. Tout ça pour influencer les politiques et les médias pour faire accepter le gaz de schiste alors que les populations n'en veulent pas. Et qu'il y a plein d'alternatives, mais ça, il faudrait avoir envie de les mettre en œuvre. Et puis, deuxième mesure votée au Sénat qui est juste ridicule, c'est la distance éolienne habitation qui, normalement, était limitée à 500 mètres. Enfin, il fallait qu'une éolienne soit à plus de 500 mètres d'une habitation pour des raisons de bruit. Et là, ils ont passé ça à 1000 mètres. Alors, ça double la distance et ça change beaucoup de la donne, puisque du coup, ça supprime énormément de projets éoliens en France. C'est intéressant parce que dans la propagande de ces députés qui ont fait passer ça, le but, c'est de bloquer l'éolien. C'est clair, hein, il n'y a pas d'autre volonté. Parce que 1000 mètres, 1 km de distance entre des éoliennes, quand vous avez déjà vu des éoliennes, quand vous vous approchez, 500 mètres, c'est largement bon pour qu'on n'entende plus rien. Hein. Et puis, par exemple, ils ne mettent pas la même chose sur les routes. Hein, construire une autoroute, on ne devrait pas avoir le droit, du coup, parce qu'une autoroute, quand on fait des mesures de bruit, ça fait beaucoup plus de bruit, hein, qu'une éolienne. Donc il devrait y avoir la même raison, puisque d'après eux, il y a une chose de dangerosité, quelque part, de gêne pour les habitants, et ben, on ne devrait pas avoir le droit de construire une autoroute à moins de 1000 km d'une habitation. Forcément, ils ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas contre les autoroutes, ils sont contre les éoliennes. Donc voilà, toute la propagande se met en œuvre et ils arrivent à faire passer leur truc, puisqu'ils ont fait voter ça au Sénat. Donc voilà. Et ce qu'on notera c'est que dans leur argumentaire, l'objectif c'est de protéger la santé des riverains. Dans ces cas-là, il devrait y avoir une zone aussi tampon autour des centrales nucléaires. En cas d'accident, il devrait y avoir une zone, donc au moins 100 km, pour dire bah là on construit pas, on interdit les constructions ou on n'installe pas une centrale nucléaire autour d'habitation proche de 100 km, c'est la zone 100 km à peu près, on est sûr que quand il y a un accident ça devient moins important. Ah bah non, là non plus on le fait pas, donc voilà. On notera quand même la bonne nouvelle sur le Sénat, c'est que ils ont rediminué la quantité de nucléaire à l'objectif là, des prochaines années. Il l'avait augmenté pour que quand le nouveau réacteur EPR soit mis en route, l'État ait pas besoin d'arrêter, enfin EDF ait pas besoin d'arrêter une centrale nucléaire ou deux. Et du coup, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ça a été rebaissé le chiffre d'électricité nucléaire maximale que la France peut produire. Voilà, c'est quand même pas très glorieux, toutes ces manipulations. Ce qu'on se rend compte derrière tout ça, c'est que les sénateurs, finalement, soit ils ont aucune culture scientifique, c'est sûr, peut-être ça, soit ils obéissent au lobby. Hein. Donc là, sur les éoliens, c'est le lobby du gaz, du pétrole qui leur fait pression, le lobby du nucléaire, hein, parce qu'on l'a vu, il y a dans cette loi de transition, ils ont tout fait pour favoriser le nucléaire et pour empêcher toutes les alternatives. Donc, ouais, ils sont quand même tout sauf indépendants, ces élus. À quand une interdiction des groupes de pression, des lobbies définitives, et que dès qu'un élu est suspecté, il y a une enquête et qu'il perde son poste, parce que voilà, c'est quand même assez inadmissible ce qui est en train de se passer. Ça fait, vous allez me dire, des décennies que ça se passe comme ça. Les lobbies agissent en douce à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais c'est quand même honteux. Et un petit mot sur les centrales nucléaires qui fuient. C'est toujours le problème des fissures dans les cuves. Alors c'est l'info de cette semaine, puisque ça concerne les centrales belges, hein, Doel 3 et Tihange 2. Donc ils ont découvert des nouvelles fissures. Donc il y a à nouveau des enquêtes pour comprendre d'où viennent ces fissures. Alors on sait que c'est lié au vieillissement et à la... Ça a été pas toujours très bien fabriqué, ces cuves, mais c'est surtout lié au vieillissement. Donc des nouvelles enquêtes sont lancées et ça fait quand même plutôt peur. Et l'opérateur GDF Suez, qui intervient en Belgique, a dit qu'il était prêt à sacrifier une cuve de centrale, c'est-à-dire une centrale, pour faire des essais, pour pousser à bout la cuve, pour voir jusqu'à quand arrivera la rupture. Bien sûr, ils auront enlevé le matériau radioactif dedans, bien évidemment. Donc voilà, et ça pose la question sur la sécurité globale des 430 réacteurs nucléaires mondiaux qui ont tous ces problèmes liés à ces aciers. Ces aciers sont attaqués par le rayonnement qu'il y a à l'intérieur de la cuve, lié à tous ces neutrons qui sont issus des noyaux cassés par la réaction de fission. Et du coup, si jamais il y a vraiment une étude scientifique et qu'elle conclut à la dangerosité de à la possibilité de rupture de ces cuves, eh ben tout le nucléaire mondial pourrait être concerné, et ça limiterait surtout la durée de vie des centrales, puisque sur les 30 premières années, les risques sont pas très grands, et c'est après. Alors on rappelle qu'en France, 24 réacteurs ont déjà dépassé ces 30 ans. Donc du coup voilà, c'est pas rassurant pour l'avenir, mais si jamais ils vont jusqu'au bout de leur étude scientifique, on aura peut-être des réponses, mais enfin, faut pas non plus trop y croire. Mais on ne sait jamais.
Alors je vais terminer par un petit sujet sur ce qui se passe au Canada. Alors nous avons appris que les actions contre l'exploitation pétrolière menées par les écologistes, les Amérindiens, constituent une menace croissante à la sécurité du Canada. C'est ce qu'estime la gendarmerie royale du Canada dans un rapport interne dévoilé ce mercredi, mais qui date en fait de janvier 2014. Alors on y trouve quoi ? On y trouve d'abord des sujets sur ce qu'on pourrait appeler les Khmers verts, les terroristes du maïs.
Ouais, les Khmers verts, c'est le mot qu'avaient utilisé des responsables de la FNSEA pour qualifier les écolos.
Voilà, donc c'est resté, hein, voyez, quand même. Alors, les défenseurs de l'environnement sont qualifiés d'extrémistes. Le rapport explique qu'ils posent une menace criminelle réelle contre l'industrie pétrolière canadienne. Ce rapport donc nous explique aussi qu'à travers le mouvement anti-pétrole, les forces de l'ordre canadiennes et les services de renseignement ont noté le développement d'une frange extrémiste et violente pan-nationale opposée idéologiquement à l'industrie pétrolière. Alors, selon la Gendarmerie royale du Canada, cette opposition est constituée d'activistes pacifiques ainsi que de militants et d'extrémistes violents qui se sont alignés sur des extrémistes autochtones violents. Foulon les violents, ça vous l'aurez compris.
Les extrémistes autochtones, c'est les Indiens.
C'est ça. Ah,
ils perdent toutes leurs terres. Alors forcément, ils sont un peu violents.
Alors, justement, le rapport s'inquiète que l'exploitation des matières premières au Canada constitue l'une des premières préoccupations de nombreuses communautés indigènes. Hein, voilà. Donc après les Khmers verts, les Indiens. Alors il y a les ONG aussi. Il y en a une qui est particulièrement citée, l'organisation, c'est Greenpeace, à tel point que eux, ils ont carrément, l'organisation a jugé carrément effrayant ce document. Mais on y trouve aussi des points sur la main étrangère. Alors la gendarmerie, chiffre à l'appui, dénonce l'influence financière étrangère venant de fondations qui sont accusées de soutenir financièrement les mouvements écologistes. Et le rapport ajoute, cela peut enflammer un environnement déjà tendu. Bon, on rappellera que le secteur énergétique a une part importante du PIB au Canada. Et donc les lobbies, ils sont là aussi très très forts. Et que donc voilà, ce que Greenpeace en souligne, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a l'air de s'intéresser à l'écologie, d'avoir quelques idées, tout de suite, on est un extrémiste anti-pétrole, un radical qui va tout faire péter. Voilà, c'est une espèce de super rapport encore. Hein. Bon, on n'attendait pas moins de forcément de son genre de provenance, hein, de la gendarmerie, mais enfin voilà, c'est quand même assez drôle.
Ouais. Quand on sait que le pétrole quand même tue énormément et beaucoup beaucoup plus que n'ont tué tous les groupements écolos du monde, hein, faut quand même le dire. Le réchauffement climatique, c'est en grande partie le pétrole et c'est pas les écolos, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, c'est la fin de ce Canu Info. On va faire un petit agenda parce qu'il se passe pas mal de choses ce week-end, avec d'abord une fête en lien avec Radio Canu, puisque l'émission avant nous, tous les 15 jours, c'est là on a eu Attaque cette semaine, mais d'habitude c'est les luttes paysannes.
En alternance,
je veux dire, voilà. Donc ça fait 3 ans que les paysans et les paysannes dans la lutte des classes MS sur Radio Canu le jeudi de 18 à 19h. Et ils font une fête, je crois qu'ils font ça régulièrement. Donc là, la prochaine fête, c'est samedi soir, enfin samedi après-midi, ça commence, à l'atelier des Canulars, donc 91 rue Montesquieu. Dans le 7e, vers le métro Saint-Gambetta. Donc ça commence à 16h30, 17h, discussion sur les luttes paysannes. Après, assiette paysanne végétarienne, produits issus des fermes, etc. Et puis à 21h, concert acoustique. Les bénéfices iront à l'émission, à Rezop.net et à Radio Canu pour la campagne de dons pour qu'on ait un local à nous.
Ouais, mais c'est surtout à noter que c'est la seule soirée dans l'année pour laquelle on peut venir avec sa poule ou sa brebis.
C'est vrai.
Il n'y a pas de souci.
Qu'on a le droit de sentir la brebis.
Voilà.
D'être éleveur.
Non, mais c'est vrai. Je veux dire, voilà, c'est un lieu ouvert et ouais. Je pense qu'il y a des gens sympas qui sont là et ça sera une bonne petite soirée.
Avec des vrais produits de la ferme. Alors, il y en a d'autres qui font des choses un peu, qui font des choses sympas aussi, mais qui sont moins proches de Radio Canu. Il faut aller dans le Bugey, à Hauteville, très exactement, puisqu'il y a le Bugey C-Trip, hiver 6e édition. Donc, ça commence vendredi avec à 20h un spectacle qui s'appelle Revenons à nos moutons. Et puis, samedi 21, toute la journée, il y a des choses. Donc, des débats l'après-midi, notamment à 15h, comment organiser les résistances aux idées d'extrême droite et néolibérale, avec Maurice Rafchus invité, hein, qui a beaucoup écrit sur les violences policières. Donc voilà, quelqu'un de très intéressant. Et puis après, il y a des concerts, de plein de... Voilà, il y a aussi de la bouffe, un spectacle, voilà, il y a plein de choses. C'est pour ceux qui sont vers le Bugey à Hauteville. Et puis, un peu plus loin, dimanche, dans un lieu qui s'appelle la Maison des Trois Sœurs, aux Trois Sœurs, donc, c'est 16 rue d'Inbold, il y a plus d'infos sur Rebellion, si vous cherchez, c'est à Vez. Et ils projettent le film qui s'appelle Welcome, de Philippe Huret, un film qui était, moi, j'avais trouvé assez sympathique, hein, sur un Français là, qui se prend de passion et d'amitié pour des migrants, et il va aider un migrant, voilà, c'est autour, bien évidemment, des migrants. Donc très beau film, moi j'avais trouvé ce Welcome, pour un film grand public hein, quand même, faut le dire. Et puis un peu plus loin, ça sera ce jeudi prochain à 20h30 à la Maison des Passages, on sera le 26 février, on en parlera la semaine prochaine. Ça s'appelle Quoi de neuf en Côte d'Ivoire depuis la guerre, c'est organisé par Survirone, donc à la Maison des Passages à 20h30 jeudi prochain, pour avoir des infos sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Eh ben pour ce soir, pour nous, c'est tout. On va laisser la place à d'autres. Tu as envie d'annoncer plein de choses.
Bah, ce week-end, un truc où il ne faut pas aller, hein, c'est les identitaires hein, qui font une sorte de mini-congrès là, avec une autorisation, bizarrement. Hein. Et par contre, il y a le salon de Prime Vert, le salon des rencontres de l'alter écologie, avec des choses bien, des choses pourries, mais c'est normal, c'est Prime Vert. Hein, si vous êtes jamais allé, vous ne savez pas de quoi je parle. Si vous êtes déjà allé, vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est quand même un lieu de rencontre intéressant. Ben voilà, il nous reste 45 secondes, on va se dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h pour le Canu Info du jeudi, demain 19h pour le prochain Canu Info.
Et bonne soirée à tous et à toutes, continuez à nous écouter et à nous aimer. Ciao,
bye
ciao
bye.
Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les